Vous écoutez RTL.
RTL.
Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'impliquent et s'encastrent.
La curiosité est un vilain défaut.
Est-ce un bras de mer ou un détroit?
Jusqu'à 22h.
Et passez.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Valérie Lagrange, Les Innocents, Gaël Faye, et pour ouvrir cette séquence, Jimmy Cliff évidemment, Many Rivers, on vous parle de l'eau, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu? C'est la question que notre invité s'est posée pour trouver la réponse. Il a beaucoup voyagé en Inde, en Égypte, au Proche-Orient, aux États-Unis. Bonsoir Franck Vogel.
Bonsoir.
Bonsoir,
est-ce que je prononce bien votre nom, tiens, pour commencer? Vogel,
oui.
Ou Vogel?
Vogel. Vogel, Vogel.
Alors c'est bon, je ne me suis pas trompé. Vous êtes photojournaliste spécialisé dans l'environnement, dans les sujets sociaux. Pour comprendre les tensions qui sont générées par la maîtrise de l'eau, vous avez choisi les fleuves frontaliers. C'est pour ça aussi qu'on a commencé par une mise en onde d'André Facetta sur les fleuves. Pourquoi les fleuves frontaliers?
Alors déjà, j'ai une formation d'ingénieur agronome.
Oui.
Donc, et mes parents étaient proches de la nature, donc j'ai toujours été sensibilisé à tout ce qui est environnement, enfin voilà. Et j'ai eu envie de... À un moment, c'était suite à une discussion que j'ai eue avec une responsable de l'eau d'une ONG qui me parlait de ses problèmes sur le Nil, avec le grand barrage, grande renaissance que l'Éthiopie était en train de construire.
Ouais. Et on en parlera
tout à l'heure, mais voilà, c'est parti de là. Et donc j'avais décidé.
Comme une prise de conscience, c'est ça que vous avez eu?
Oui, ouais. J'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, il y a forcément d'autres fleuves que le Nil qui ont des problèmes.
Parce que comme il y a plusieurs pays qui sont autour de ces fleuves, il y a forcément conflit. Est-ce que vous avez retrouvé en fait au cours de ces voyages?
Souvent, oui. Souvent, parce qu'il y a toujours un pays qui essaye d'accaparer l'eau,
ouais.
Ou un pays qui pollue l'autre. Ou un pays qui... Il y a vraiment des différents types de problèmes, de tensions, qui font que les tensions sont crescendo. Enfin, ça dépend des fleuves. L'eau, il faut savoir que l'eau, c'est très très rare. Et à l'échelle cosmique, ça c'est Hubert Reeves qui le dit, à l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. Donc en sachant ça, vous voyez, c'est quelque chose, il faut que les gens prennent conscience de ça et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu brosser ce portrait mondial autour de l'eau.
Et que vous publiez, Franck Vogel, aux éditions de la Martinière, Fleuve Frontière, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu? On va commencer par votre tout dernier voyage que vous racontez dans ce livre. Il date de novembre 2015, il nous mène au cœur du Proche-Orient, sur les bords du Jourdain. Il ressemble à quoi ce fleuve? Plantez-nous le décor.
Alors, le Jourdain, il prend sa source, il y a plusieurs sources en Syrie et au Liban. Et au début, c'est un petit fleuve qui est beau, très vert, très propre, jusqu'au lac du Tibériade. En Israël, jusque-là, tout va bien. Après ça, les choses changent un petit peu. En gros, il est propre encore quelques 2 km après le lac du Tibériade. Et après ça, il y a un barrage. Et après, c'est de l'eau usée. Toute l'eau, en fait, est prélevée avant par Israël, qui prélève 50% des eaux du Jourdain, donc ce qui est énorme, en fait, qui est déviée par un aqueduc. On va en parler tout à l'heure, mais voilà. Et donc, la partie basse, qui relie donc le lac du Tibériade à la mer Morte, est totalement polluée, parce qu'il y a des eaux usées qui sont déviées là-dedans par Israël. Et il y a très peu d'eau qui arrive. La Jordanie aussi prend sa part d'eau, hein, bien sûr, et la Syrie aussi. Dans les affluents, c'est les Yarmouk principalement qui sont détournés, mais au final, il reste que 4% de l'eau du Jourdain après.
Alors le Jourdain, c'est aussi un fleuve sacré pour les chrétiens. Il y a des photos dans votre livre qui, moi, m'ont étonné. On y voit des pèlerins qui viennent d'un peu partout dans le monde pour se plonger dans le Jourdain. Alors de quel côté? Du côté pollué ou du côté propre?
Les deux, en fait.
Ouais.
Il y a deux sites de pèlerinage. Donc déjà, le fleuve est sacré pour plus de la moitié de l'humanité.
Oui.
Pour les chrétiens, les musulmans et les juifs.
Oui.
Et les chrétiens viennent principalement au Jourdain pour faire... c'est la commémoration du baptême de Jésus par Jean-Baptiste.
On connaît le lieu précis de
oui.
ce baptême?
Oui, le lieu précis est sur le Jourdain, dans la partie polluée. du côté de la Jordanie, c'est là que Jésus a été baptisé officiellement.
D'accord. Enfin,
officiellement, c'est, voilà.
Et c'est le site qui a été retenu en tout cas.
Ouais. C'est le site qui a été retenu par l'UNESCO et ouais. Voilà. Et donc il y a ce site-là. Israël sur l'autre rive a aussi ouvert un lieu, mais ça reste toujours sur le Jourdain pollué. Donc là, c'est principalement les orthodoxes russes et des pays de l'Est qui viennent ici parce que c'est le vrai lieu. Et il y a un deuxième lieu qui a été ouvert plus récemment par un kibboutz dans la partie propre du Jourdain. Vous parlez des 2 kilomètres juste après le lac de Tibériade. C'est là qu'ils viennent les Américains, les Français et autres.
Ils ont choisi la partie propre, même si c'est pas forcément là que le Christ a été voilà. Baptisé.
Question de Béotienne, toute cette eau qui disparaît, vous dites qu'Israël prend par exemple 50% du Jourdain. Elle est utilisée pour quoi ?
Elle est utilisée, en fait, le lac de Tibériade, c'est la principale source d'eau douce d'Israël. Il y a un énorme aqueduc qui a été construit qui relie toutes les villes côtières en passant par Tel Aviv et il va jusque dans le désert du Negev pour irriguer les kibboutz qui sont dans ces zones et voilà.
Est-ce que ça a des conséquences, on parlait de pollution, mais plus large en matière d'environnement, cette surexploitation du Jourdain, par exemple la mer morte, comment va la mer morte aujourd'hui ?
Très mal, très très mal. Là vraiment j'ai été choqué de la découvrir dans cet état-là. Je vous ai dit qu'il y a quasiment plus d'eau qui arrive. Mmh. Le Jourdain inférieur en amène que 4% de ce qu'il a amené avant. Donc il y a quasiment plus d'eau qui arrive. En plus, elle est sale. Et en plus, Israël a une énorme entreprise où il récupère des minéraux, de la potasse, du magnésium et autres. Et en fait, il pompe 400 millions de mètres cubes d'eau dans la mer morte par an. Et donc, ce qui fait que la mer morte, elle baisse d'un mètre par an. Actuellement, depuis plusieurs années. Et les bords sont en train de s'écrouler de la mer morte. Donc, elle s'éloigne de plus en plus de la côte. Et il y a des trous, il y a des cratères qui se forment parce qu'il y a des effondrements qui se créent.
Alors, on va continuer de raconter, grâce à vous, Franck Vogel, des histoires de fleuves avec le Nil. Vous allez voir, vous l'avez évoqué rapidement, qu'il y a un projet de barrage gigantesque qui est lancé par l'Éthiopie. Là aussi, beaucoup de tensions, de guerre de l'eau potentielle.
Vous écoutez RTL.
Toujours avec vous. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est un voyage que l'on vous propose dans la curiosité, un voyage le long des fleuves frontaliers. Il y a 2 minutes, nous étions sur le Jourdain et maintenant, c'est le Nil qui nous attend. Notre guide et photoreporter Franck Vogel, vous êtes parti observer ces tensions que ces fleuves frontaliers peuvent provoquer. C'est quoi le point commun entre le Jourdain et le Nil? C'est l'aridité des terres autour des
oui, desquelles ça, il se trouve. Oui, c'est ça, exactement ça. Surtout vers la fin, en Égypte. Là, c'est la seule source d'eau pour l'Égypte, c'est le Nil.
Et c'est d'ailleurs marrant, parce que vous dites à la fin, le Nil et l'Égypte, pour nous, le Nil, en fait, c'est le fleuve de l'Égypte. Mais le Nil traverse de nombreux autres pays, lesquels ?
Exactement. Alors, il y a plusieurs sources, déjà. Ça, c'est un point important. Il y a le Nil bleu qui part d'Éthiopie, qui passe et qui rejoint le Nil blanc à Khartoum, au Soudan. Et le Nil blanc, il prend sa source Rwanda-Burundi. Il traverse, passe par le Tanzanie, le lac Victoria, il remonte. Il remonte tous les pays, il traverse le Sud-Soudan, et après Soudan, et voilà. Il y a pas mal de pays.
C'est plus d'une dizaine, c'est une dizaine de pays.
En fait, oui, dans le bassin versant, ouais. On est à 11 pays.
C'est un fleuve mythique, le Nil.
Exactement, c'est sacré pour les Égyptiens, enfin, voilà. Période des pharaons, c'était considéré comme... Il y a beaucoup de déesses autour de ça, c'est le fleuve sacré qui amène de la vie à la mort. Enfin, il y a beaucoup de choses autour
de symbolique. Il y a une divinité aussi, d'ailleurs.
Oui, le Nil est une divinité, c'est ça.
Exactement. Il s'appelle... en fait, c'est un... son nom, c'est Happy.
C'est drôle. C'est
comme joyeux drôle. En anglais, donc.
Exactement.
Sauf que voilà. Ça s'écrit H-A, accent circonflexe, P-Y, c'est ça.
Oui, exactement. Ah. Et en fait, c'est la représentation de Happy, c'est un homme avec des seins, avec des nénuphars sur la tête et du papyrus. Et ça représente la crue du Nil. Et actuellement, depuis maintenant la construction du barrage d'Assouan, il n'y a plus de crue du Nil. Donc on a détruit la déesse, enfin le dieu Happy.
Ça, c'est le point commun des différents fleuves sur lesquels vous êtes allé. C'est comment l'homme, finalement, a transformé ces fleuves par... avidité, rapacité, en tout cas, ou besoin, parce qu'au départ, il y a quand même dans des terres arides le besoin d'utiliser l'eau et la transformer en fruits, en légumes et en prospérité. On peut comprendre ça, mais ils sont allés trop loin. Le Nil, c'est pareil, c'est-à-dire que les ressources du Nil s'appauvrissent aujourd'hui ?
Alors, les ressources du Nil, il y a quand même moins d'eau, il pleut moins. Ouais. Ça, c'est un fait. Avec le réchauffement climatique, il pleut moins. Au niveau Éthiopie, il y a à peu près 80% de l'eau du Nil qui vient du Nil bleu, donc qui vient d'Éthiopie, et le reste du Nil blanc. Mais avec ces barrages, enfin principalement là, ça va poser des problèmes avec le grand barrage Renaissance en Éthiopie, parce que là, il va finir normalement l'année prochaine, et la mise en eau du bassin de rétention va durer à peu près 10 ans. Et pendant ces 10 ans, l'Égypte risque de perdre entre 12 et 25% d'eau.
Mais pour l'Éthiopie, ce barrage-là, le barrage de la Grande Renaissance, on se dit quoi ? C'est crucial. Ça changerait le destin de ce pays.
Oui, c'est assez crucial au niveau économique, parce que, en fait, juste pour faire un petit point historique, c'est l'Empire britannique, la Grande-Bretagne, qui avait décrété en 1929, ça a été amendé en 59, en fait, on donnait une grande partie de l'eau du Nil, 87% de l'eau Égypte et Soudan compris. Donc en gros, c'est à peu près 70% pour l'Égypte et 17% pour le Soudan. Et un droit de veto pour l'Égypte sur n'importe quel barrage en amont. Et l'Éthiopie a décidé que ce n'était pas possible, qu'ils avaient aussi le droit de se développer, ils avaient aussi le droit à l'électricité. Et donc en 2010, ils ont signé un contre-accord avec tous les pays du Sud, à l'exception de l'Égypte et du Sud-Soudan. Du Soudan, pardon. Et ils ont commencé ce projet de barrage.
Voilà. Il est en cours de construction ?
Ouais, il est en cours et il sera fini l'année prochaine, normalement.
Avec un drôle d'allié d'explication historique, Israël. Israël est l'allié de l'Éthiopie dans cette histoire.
Alors, ouais, ça, c'était un coup de poker de l'ancien Premier ministre éthiopien qui a réussi à allier Israël pour se protéger. Parce que l'Égypte a toujours dit, enfin, les présidents depuis longtemps disaient que si on touche à l'eau du Nil, on rentre en guerre. C'était acté, c'était écrit, c'était dit. Et donc, il fallait qu'ils se protègent. L'armée éthiopienne est beaucoup plus faible que l'armée égyptienne. Et donc, son moyen, sa stratégie, c'était de louer les terres, parce qu'il fallait financer aussi ce barrage. Donc, il fallait louer les terres, et il a choisi les louer à Israël. Alors, il y a plusieurs liens. Il y a les falachas, c'est les juifs noirs. Et donc, il y a ce lien entre Éthiopie et Israël, et donc ils ont été loués, les terres autour du barrage ont été louées à Israël. Et donc c'était un allié stratégique. On attaque le barrage, on attaque entre guillemets Israël.
Franck Vogel, dans votre livre, vous demandez si la guerre de l'eau aura lieu. Elle a déjà eu lieu au Soudan. Et d'ailleurs, il y a l'une de vos photos qui le rappelle. Qui est Sarah ?
Alors Sarah, c'est une énorme excavatrice qui fait presque 500 mètres de long, au milieu de nulle part.
C'est une grosse machine qui sert
à creuser un canal. Ouais. Et en fait, ce canal, donc c'est le canal de Djonglé, qui en fait devait court-circuiter une zone marécageuse sur le Nil Blanc, dans la partie sud du Soudan à l'époque. Et c'était début des années 80 qu'ils ont commencé à construire ça. C'est une entreprise française qui avait eu le contrat, qui faisait cette construction. Et arrivé aux deux tiers, la tribu vivant dans les marécages qui allait être court-circuitée, donc ils se sont rendus compte que, c'est les Dinka, ils se sont rendus compte que si...
On leur piquait leur eau, en fait.
Ah, complètement. En fait, ils seraient à sec, complètement. Et ils ont attaqué. Ils ont attaqué la machine. Il y a eu une prise d'otage, c'était en 83. Et en fait, ça a déclenché une guerre civile entre la partie sud du Soudan et la partie nord, qui a donné lieu à plus de 20 ans de guerre civile, des centaines de milliers de morts, et en 2011, la naissance du Sud-Soudan.
Vous avez pris des risques en prenant cette photo ?
Bah, c'était une photo un peu difficile parce qu'il fallait des gardes armés. C'était une zone compliquée. Deux semaines avant que j'arrive sur le lieu, il y a eu une petite guéguerre entre deux tribus. Moi, j'y étais en 2012, donc c'était un an après l'indépendance. Mmh. Et les petites guéguerres internes reprenaient. En gros, il y avait souvent des vols de vaches ou de femmes entre tribus. Et donc ça s'est passé entre deux tribus qui vivent dans cette zone, et ils ont décidé le terrain d'affrontement, c'était à côté de la machine. Et avant, ils avaient des arcs et des flèches et des lances, donc il y avait quelques blessés, peut-être quelques morts, mais pas beaucoup. Là, 25 années de guerre civile, bah, ils avaient des Kalachnikovs, quasiment tous, et donc il y a eu presque 100 morts. Et donc c'était très compliqué, donc il fallait j'avais 10 gardes armés, enfin entre 8 et 10 gardes armés pour moi, pour faire cette photo.
Grâce à vous, Franck Vogel, on voyage sur RTL. On va partir maintenant en Inde. On grimpe à 5300 mètres d'altitude. Direction le Brahmapoutre, le fleuve le plus haut du monde. A tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
première radio de France. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce sont des fleuves qui charrient leur lot de légendes, de traditions religieuses, de réussites économiques et de guerres pour la maîtrise de l'eau. Ce sont les fleuves frontières dont on vous raconte l'histoire sur RTL avec notre invité, le photoreporteur Franck Vogel. Je rappelle que vous publiez un livre sur ce thème aux éditions de la Martinière. On part en Inde, donc 5300 mètres d'altitude pour découvrir le plus haut fleuve du monde, le Brahmapoutre. Ça signifie le fils de Brahma. Brahma, c'est le dieu créateur pour les Indiens. Il fait l'objet, ce fleuve, d'une guerre des barrages entre la Chine et l'Inde. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, je voudrais que vous nous le décriviez. Vos photos sont vraiment magnifiques dans ce livre. Bravo, Franck Vogel. Vous décrivez un fleuve fantasque. Ça veut dire quoi?
En fait, c'est un fleuve qui est resté primitif. C'est comme ça qu'étaient les fleuves avant que l'homme les maîtrise.
C'était comment alors?
Bah, en fait, c'est un fleuve qui est... qui peut être très très large. En fait, il fluctue énormément en saison sèche par rapport aux saisons de la mousson, en fait, la saison des pluies. Il peut varier entre quelques dizaines, centaines de mètres de large à certains endroits, à 25 km de large.
Imaginez 25 km, 25 un fleuve large de 25 km, c'est gigantesque.
Parce qu'en fait, il inonde, toutes les zones autour sont inondées. Il y a tellement d'eau, c'est en fait un des fleuves au monde qui a le débit le plus élevé. On est à des débits impressionnants, on est à 49 000 mètres cubes par seconde. Quelque chose de...
On a du mal à se rendre compte de ce que ça peut signifier, mais est-ce que du coup ça veut dire qu'il est emprunté par des gros bateaux, ce Brahmapoutre?
Non, bon. Non, parce qu'il y a énormément de bancs de sable, il n'est pas du tout navigable, à part par des petites embarcations, et les grands fleuves les grands bateaux ne peuvent pas naviguer sur le Brahmapoutre.
Alors vous donnez des chouettes adjectifs à vos fleuves. Alors le Brahmapoutre est fantasque, mais il est aussi lunatique. On saura tout sur son caractère. Pourquoi lunatique?
Lunatique parce que
il change d'humeur
et en fait
rapidement
Oui, rapidement, et il y a énormément d'érosion aussi. Comme il est tellement puissant comme fleuve, il détruit, il érode. Il y a une île sur le Brahmapoutre, la Majuli, qui est en train de mourir,
c'était la plus grande,
disparaître. Voilà.
Vous étiez à quelle période sur le Brahmapoutre?
Moi, j'étais en 2013, pendant la période sèche, pas pendant la période des crues, de la mousson. Je pense que ça aurait été complètement différent. Le visuel, je pense que ça doit ressembler à une mer. On ne se rend pas compte que c'est un fleuve. C'est tellement large, énorme que...
Et quand vous étiez sur place, qu'est-ce que vous avez pu observer du conflit qui oppose l'Inde et la Chine autour du fleuve, le Brahmapoutre?
Alors, ce que j'ai pu observer, c'est la construction de plusieurs barrages côté indien. Mais avant de partir en Inde, quand j'ai monté le projet, je me suis rendu compte, j'ai trouvé une photo d'activistes indiens qui brûlaient un drapeau chinois. Je me suis dit,
Ah, il est dans le livre d'ailleurs, c'est la seule photo qui n'est pas de vous, c'est ça?
Exactement, exactement. Et j'avais trouvé cette photo et elle m'a intrigué. Et à l'époque, j'ai travaillé avec un journaliste du New York Times. On a fait l'article ensemble. Et donc, il était aussi sur place déjà. Et en fait, on avait quelques liens avec des activistes locaux qu'on connaissait. Et on demandait, mais c'est qui ces personnes sur la photo? C'est qui ce groupe? Vous devez forcément les connaître. Non, on ne connaît pas du tout. Enfin, jamais entendu parler. Bon, c'est bizarre. Et ils ont fait leur enquête. Ils ont mené leur enquête. Et ils se sont rendus compte que, en fait, ce groupe n'existe pas. Ça a été monté. C'est une photo montée.
C'est de la propagande.
Exactement, c'est de la propagande.
Anti-chinoise.
Anti-chinoise, ouais. Par l'entreprise indienne, ou on ne sait pas exactement qui, mais c'est pour amener le problème vers la Chine.
Parce que, qu'est-ce qui se passe? Et la Chine et l'Inde ont de multiples projets de barrages pour ce fleuve, pour le Brahmapoutre, c'est ça?
Oui, il y a déjà toute une série de barrages qui sont construits au niveau chinois, tibétain et... juste avant la frontière avec l'Inde. Et donc, le gouverneur, à l'époque, disait, quand j'y étais là, que pendant la période sèche, il n'y a quasiment plus d'eau qui passe côté indien. Et c'est la faute à la Chine. C'était ça qui était l'idée. Et donc, moi, j'étais en train de réfléchir, de creuser ce point-là. Et donc, en allant sur place, on me dit, la Chine a des barrages. Mais l'Inde, vous savez que l'Inde est en train de projeter plus de 150 barrages en Arunachal Pradesh, c'est la région tout au nord avec la frontière avec le Tibet, et au détriment des populations locales. parce qu'en fait c'est un projet énorme qui est censé fournir plus de 10% de l'électricité de toute l'Inde. Donc ça représente voilà, énormément d'électricité. Et pour ce faire, pour éviter tout problème avec les populations locales, bah les entreprises qui construisaient ces barrages, bah ils ont utilisé des techniques un peu vieilles comme le monde. Qui étaient utilisées depuis très longtemps. Ils ont donné de l'alcool fort aux populations locales et de l'opium pour éviter qu'ils viennent au débat public. Donc en fait, ils les ont abrutis.
Et ils ont pu ensuite construire leur barrage. Voilà encore une histoire de ce que ces fleuves frontaliers et ces fleuves frontières peuvent provoquer comme tension, comme manipulation. On va continuer de naviguer sur ces fleuves. Tiens, dans un instant, après l'Inde, on va changer d'ambiance.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le Colorado, c'est le seul fleuve à ne plus atteindre son embouchure, principalement à deux facteurs, l'agriculture et principalement l'Imperial Valley. Il faut imaginer que pour faire un steak de 200 grammes, il faut 3550 litres d'eau.
C'est aussi Los Angeles et Las Vegas qui, avec 40 millions de touristes, puisent sans compter dans le fleuve.
RTL.
Tout le delta mexicain est totalement à sec. C'est horrible, c'est un désastre.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les fleuves frontières, c'est ce que l'on découvre depuis tout à l'heure dans la curiosité grâce à notre invité que vous avez entendu dans la mise en onde d'André Facetta. C'est le photoreporter Franck Vogel. On a voyagé avec vous sur le Jourdain, on s'est baladé sur les rives du Nil et le Brahmapoutre. Plus de 25 km de largeur, parfois incroyable. Et on a compris combien ces cours d'eau font l'objet d'une guerre de l'eau entre les pays qu'ils traversent. Alors c'est la même chose entre les États-Unis et le Mexique pour le Colorado. Sauf que, évidemment, Franck Vogel, cette guerre, elle a été remportée depuis très longtemps par les Américains.
Ben oui, c'est en fait les États-Unis s'accaparent quasi la quasi-totalité de l'eau du Colorado, et depuis 10 ans, c'est le seul fleuve au monde à ne plus atteindre la mer.
C'est ce que vous disiez, on entendait dans la mise en onde, le delta. Normalement, le Colorado est censé se jeter où ?
Dans la mer de Cortez, qui est au sud de la Californie, enfin au sud du Mexique.
Oui.
Et il n'atteint plus depuis à peu près 10 ans. Donc en fait, les 100 derniers kilomètres du fleuve sont à sec. Tout le delta est à sec.
Et ça, c'est le résultat d'une exploitation par les Américains qui date d'il y a longtemps ?
Alors, c'est vraiment à sec depuis 10 ans. Mais c'est une exploitation, oui. Alors il y a plusieurs choses. Il y a les barrages, mais ça n'arrête pas un fleuve. Il continue à couler, mais voilà. Mmh. Mais en fait, ce qui est vraiment problématique, c'est l'agriculture. C'est 85% de l'eau du Colorado est utilisée par l'agriculture. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, enfin, nous, on a l'image de Las Vegas qui va pomper l'eau et les golfs et tout ça. Et c'est beaucoup plus focalisé, c'est vraiment les agriculteurs et principalement l'Imperial Valley au sud de la Californie qui accapare 70%
de l'eau. Quand vous dites ça comme ça, moi, ça ne me choque pas. Je me dis, c'est normal, ces agriculteurs, ils aient besoin de l'eau.
Bien sûr qu'ils ont besoin d'eau. Sauf que la répartition, les quantités d'eau qui ont été attribuées, ont été attribués en 1922 et il s'était basé sur des mauvais chiffres. Il avait trop plu à l'époque et donc ils ont donné trop d'eau, des quantités, c'est pas des pourcentages. Et eux, comme c'est inscrit dans les lois américaines, c'est aux États-Unis, c'est comme une terre. On est propriétaire de l'eau.
Ça veut dire premier arrivé, premier servi, c'est
exactement.
Ça ? C'est l'expression consacrée.
Exactement, premier arrivé, premier servi, et après c'est inscrit dans les lois. Et ça se transmet de génération en génération, c'est droit à l'eau. Et donc ça peut se vendre aussi. Et donc eux, ils ont droit à cette quantité d'eau. Mais comme il pleut moins et qu'ils utilisent toute leur eau actuellement, parce qu'ils ont planté la luzerne, c'est une des plantes les plus voraces en eau, dans cette zone désertique, il n'y a plus rien depuis 10 ans qui passe la frontière.
La luzerne qui sert notamment à l'exportation vers quel pays ?
La luzerne, en fait, 70% de cette luzerne produite dans ce désert, c'est un désert, hein. Mmh. Il fait 40-45 degrés, hein, l'Imperial Valley, et c'est exporté en Asie, en Chine, et pour le fameux bœuf de Kobe.
Au Japon, donc.
Au Japon.
Oui. Pour faire le réputé meilleur bœuf du monde.
Exactement.
La luzerne vient des États-Unis. Bon, on est dans la mondialisation. Vous disiez, on vous entendait là dans la présentation à l'instant, que pour faire un steak de 200 grammes, rappelez-nous le chiffre, il fallait combien de litres d'eau ? Ça semble tellement énorme.
Oui, c'est 3550 litres d'eau pour faire un steak de 200 grammes.
Pourquoi elle passe où cette eau-là ?
Alors, c'est pas ce qu'elle va boire, la vache. Hein.
Oui. Hein,
vous comprenez bien.
Elle a soif, mais quand même.
C'est plus de 90% de cette eau qui va être utilisé pour faire pousser la luzerne, le maïs et l'alimentation de l'animal. Et produire de la luzerne ou du maïs dans l'Imperial Valley, un désert, et en plus élever des vaches ici, on est dans l'aberration complète, quoi.
Faudrait manger la luzerne, mais c'est peut-être pas très bon, la luzerne directement dans l'assiette. C'est pas comme le quinoa.
Alors il y a des conséquences directes pour deux peuples qui sont privés d'eau. D'abord, les Indiens, les Navajos. C'était les premiers sur cette terre et aujourd'hui ils sont dans cette zone-là, hein, au bord du Colorado.
Alors eux, ils sont en Arizona, oui. Ouais. La zone touche le Colorado, donc ils ont normalement droit à l'eau. Parce qu'il y a un pourcentage, enfin des quantités qui sont allouées aussi à eux. Sauf que tous les projets de canaux qui devaient leur amener de l'eau ont été stoppés. Parce qu'il y a à chaque fois des vétos, des fermiers, de l'agriculteur.
Premier arrivé, premier servi.
Et donc, c'était les blancs. Enfin, voilà, ils étaient là avant eux. Mais là, ils ne sont pas considérés.
Ouais. Voilà. Donc les Navajos n'ont plus d'eau et les Mexicains n'ont plus, ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Exactement. Au final, pour résumer, il y a deux peuples. Au sein des États-Unis, il y a ceux qui ont le droit à l'eau et ceux qui n'ont pas droit. C'est un peu la bannière étoilée, on la coupe en deux. Il y a ceux qui ont droit et ceux qui n'ont pas droit aux États-Unis. Et après, côté mexicain, c'est un autre pays, mais voilà, pas du tout considéré.
Pour se rendre compte, Franck Vogel, de l'importance de ce fleuve, le Colorado, il traverse 7 États américains et il a façonné évidemment leur géographie, leur paysage. Par exemple, c'est lui qui a créé le Grand Canyon.
Ce canyon magnifique, enfin majestueux, et il a été façonné en 20 millions d'années à peu près. Et j'ai passé pas mal de temps quand même sur le Grand Canyon, et je voulais faire une image forte de ce Grand Canyon, de ce lieu mythique. J'ai fait une image panoramique, elle est exposée à l'exposition là, actuellement au pavillon de l'eau, mais en petit format. Cette photo, elle a été faite avec 14 images, et on pourrait la tirer à 100 mètres.
Ça permet de voir quoi? Le lit, l'ancien lit du Colorado, c'est ça?
On voit tout le Grand Canyon et le lit du fleuve en bas, au coucher du soleil. C'est une photo, je suis assez content de cette image d'ailleurs. Oui. Et voilà, elle est forte et c'est quand même un lieu magique. Et si on ne change pas les choses, c'est pas le Grand Canyon qui va disparaître, hein, mais l'écosystème autour, l'environnement, la biodiversité qu'il y a autour de ça pourrait directement être affecté.
Cette photographie, on peut la voir, dites-nous, cette exposition, elle se tient où? Elle se tient à Paris, c'est ça?
À Paris, au pavillon de l'eau, dans le 16e arrondissement. Mmh. Et c'est une exposition donc consacrée au Colorado. Elle est jusqu'au 30 décembre.
Merci beaucoup Franck Vogel, votre livre Fleuve Frontière avec ses photos magnifiques et des textes qui sont signés Ségolène Almandou et publiés aux éditions La Martinière. Vous repartez? Il y a d'autres fleuves au programme, d'autres fleuves frontières?
Oui, là j'ai réalisé le Mékong là cet été en juillet-août, et il y en a trois autres qui vont venir. Il y a le Zambèze, le Gange et l'Amazone qui seront pour le numéro 2, deuxième tome.
Eh ben bon voyage à vous, bon vent.
Bonne route.
Vous écoutez RTL.